Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
L'éclairage aujourd'hui vous emmène parcourir les déserts du monde. La Mauritanie, le Tchad, l'Iran, l'Inde ou encore le désert du Kalahari, notre invité du jour a avalé pas moins de 40 000 km à pied, seul, accompagné de ses chameaux. Il ne vit que pour le désert et ne cesse de lui clamer sa flamme à travers ses livres. Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Philippe Frey. Philippe Frey, bonjour.
Bonjour Élodie.
Merci d'être à Canal Académie au cœur de l'Institut de France. Vous nous venez de Tombouctou, vous repartez bientôt en Éthiopie. Nous avons la chance de vous cueillir entre deux avions. Vous êtes ethnologue, aventurier, écrivain, expert des déserts. Vous enseignez également les cultures du monde à l'Université de Mulhouse. Vous m'avez précisé en préparant cette émission que vous travaillez au sein de plusieurs instituts. Vous êtes membre du Club des Explorateurs et vous venez de publier 50 degrés, désert brûlant, paru en 2007 aux éditions Lattès. Et vous venez d'ailleurs de recevoir le prix du Dulan-Saint-Denis de l'Institut de France pour ce livre. Et j'ajoute aussi que vous avez reçu les années précédentes également la médaille d'argent de l'Académie française pour votre premier roman en 2001, également le prix Lyotard de l'exploration scientifique qui était remis à l'occasion par le président de la République. Et donc nous allons pouvoir parler avec vous de ces déserts. Alors, quand on lit votre livre, on voit les chapitres souffrance, survie, mort, prison, on se demande vraiment ce que vous allez faire dans les déserts et pourquoi vous les aimez tant, Philippe Frey.
Si on regarde la définition d'un désert, c'est normalement un endroit où il n'y a pas de vie, où il n'y a pas de vie végétale, où il n'y a pas de vie d'insectes même, où il n'y a pas de vie humaine. Et ça veut dire que quand on veut y aller, automatiquement, on va être à la limite de la survie. Automatiquement, ça va être dur. On se doute bien quand même que la température va dépasser les 30, 40, 50 degrés. On se doute également qu'il y aura des vents de sable, des mirages, et que chaque vie, aussi infime soit-elle, aura du mal à perdurer dans cet environnement-là. Donc c'est un peu normal aussi qu'on souffre, que ça soit violent dans ces zones, parce que c'est dans la logique des choses.
À aucun moment, au cours de vos aventures, vous êtes dit j'arrête, c'est trop dur, j'ai frôlé plusieurs fois la mort, parce que nous aurons l'occasion d'en reparler, hein. Vous avez quand même subi des péripéties assez lourdes. À aucun moment, vous êtes dit je rentre.
Quand vous partez traverser une longue partie de désert, en général, quand ça commence à aller mal, c'est au milieu. Donc, que vous continuez devant ou que vous retourniez en arrière, ça revient à peu près au même, souvent. Donc, il vaut mieux continuer. Il vaut mieux s'accrocher comme un scarabée qui essaye péniblement de monter sa petite dune et de redescendre de l'autre côté. Donc, il vaut mieux faire abstraction de la souffrance, de la douleur, continuer.
Lorsque je vous ai présenté, j'ai dit que vous faisiez une sorte de déclaration d'amour au désert. Je me permette de lire un petit passage. « J'aime le désert même s'il peut mener à ma perte. Je ne l'ai même jamais autant aimé et je le caresse de la paume de ma main. Je m'étonne de sa souplesse et de sa texture. Je soulève, trop pressé, le pansement sommaire posé sur mes yeux et je m'étonne de la beauté des pleins et des déliés de sable faiblement éclairés par la lune. On croirait voir dans ses rondeurs la combrure d'une femme ou la zone voilée de son sexe.
C'est ça qui est paradoxal avec le désert, c'est qu'il peut être parfois très très violent, inhumain, hostile, et puis par moments, le soir en particulier ou le matin, mais ça ne dure pas très longtemps. Ça dure environ une demi-heure le matin, une demi-heure le soir, où effectivement on peut à peu près l'apprivoiser, où on voit justement des reliefs. Parce que d'habitude, à midi, on voit rien du tout. Tout est tellement lumineux qu'on ne voit plus les reliefs. Il y a plus justement ces cambrures de dunes. Comme ça, on ne voit que un petit peu le matin, un petit peu le soir. Et puis la nuit, c'est vrai, c'est agréable aussi. Parce qu'on a des milliards d'étoiles au-dessus de soi. Parfois, le ciel est tellement clair du fait des étoiles, même sans lune, qu'on y voit comme en plein jour. Ce qui est inimaginable ici. L'air est trop pur.
Alors, vous parlez de vision, justement. Votre premier chapitre commence directement en Mauritanie, le désert de Mauritanie, et avec un problème assez sérieux. Vous êtes seul, hein, comme toujours, dans les dunes, et avec une ophtalmie qui est en fait le fait de devenir aveugle.
Oui, ça peut arriver. Ça m'est arrivé en fait plusieurs fois. Hein. Mais la première fois, ça fait effectivement très bizarre parce que on est en plein dans les dunes, en survie, dans le moment le plus difficile, à la saison la plus chaude. La température est à plus de 55 degrés. Alors pourquoi devient-on aveugle en fait? C'est parce que effectivement tout est blanc partout. C'est-à-dire que c'est comme une ophtalmie des neiges en fait pour un alpiniste. C'est-à-dire que c'est trop lumineux, donc on a la rétine qui prend un coup. Et puis avec un vent de sable rasant en permanence, ça irrite également les yeux. Et puis ajouter à ça l'effort. À ce moment-là, j'avais marché 36 heures d'affilée. Donc la sueur coule dans les yeux et la sueur est acide. En particulier quand on boit jusqu'à 10-15 litres d'eau par jour, on évacue tous ces sels minéraux et ça coule directement dans les yeux. Donc effectivement, tous ces effets cumulés font qu'on peut perdre la vue effectivement pendant quelques jours. Au moment où ça nous arrive la première fois, on s'est dit qu'on va rester aveugle. Et puis finalement, ça se résorbe après. Mais il ne faut pas que ça vous arrive au pire moment. Et là, c'était dans des dunes qui s'appellent les dunes de la Matliche, en Mauritanie, qui font 50 km de large. Alors, vous avez besoin de tous vos sens. Il faut sentir les dunes, il faut les voir, il faut marcher. Donc on a besoin vraiment de tout son corps. Et on ne peut pas se permettre ce genre d'écart.
Et justement, alors comment êtes-vous sorti de cette ophtalmie?
Il faut attendre que ça passe, donc il faut continuer malgré tout. Donc malgré tout, c'est-à-dire essayer de deviner à peu près où le ciel est plus sombre, c'est-à-dire qu'il y a une dune devant soi, et puis essayer de passer un petit peu entre les dunes. Le problème des dunes en chameau, c'est que les chameaux ne passent pas partout. Il y a des dévers parfois trop raides, et ils ne peuvent pas monter. Parfois, on peut même se retrouver carrément prisonnier des dunes, c'est arrivé plusieurs fois. Les pentes sont trop raides tout autour, on est tombé dans une cuvette, on ne peut plus ressortir. Donc c'est plein de pièges. Donc il faut absolument regarder où on met les pieds. C'est d'ailleurs valable pour tous les déserts et tous les endroits, parce que on peut tout trouver. Ça n'est pas cartographié, ça n'est pas répertorié. Donc vous pouvez trouver à la limite n'importe quoi devant vous d'un moment à l'autre. Ça peut être par exemple un canyon qui n'était pas prévu, qui est gigantesque devant vous. Ça peut être par exemple des montagnes de basalte ou même de volcaniques avec des champs de lave qui vont vous empêcher de passer. Tout est possible. Ça peut être des ensembles de dunes vraiment monstrueux qui font 400 km de large. On ne sait pas quand ils commencent, on ne sait pas quand ils vont finir.
Et quand on démarre cette aventure avec vous dans le premier chapitre, vous êtes en perdition, vous êtes quand même seul, vous ne savez pas où vous allez, vous êtes aveugle et vous faites la rencontre fortuite de nomades. On ne dit pas Touareg, hein, dans la région, c'est nomade.
Oui, dans la région, c'est des Maures ou des Rguébat. Là, en l'occurrence, c'était un Rguébat. Normalement, ils n'étaient pas là, d'ailleurs. Normalement, il n'y a personne dans ces zones. Eux-mêmes fuyaient la sécheresse un peu au nord et ont glissé également vers là. Ça peut être parfois des rencontres hostiles.
Bah là, en l'occurrence, c'était pas hostile, mais vous étiez quand même pas forcément pris en charge.
Non, c'est une rencontre, c'est tout. Mais c'est pas pour autant que le nomade que vous rencontrez va vous aider. Ça, c'est quelque chose.
Parce que vous étiez quand même en difficulté.
Oui, mais eux ne se rendent pas compte. C'est-à-dire que les nomades, ça m'a toujours étonné d'ailleurs, ont cette faculté de ne pas se mettre à la place des autres. C'est-à-dire qu'ils vivent dans leur environnement, sur leur territoire, ils savent exactement où trouver de l'eau, ils savent que là, c'est des dunes vraiment hostiles, on n'y va pas. Et donc, ils évoluent dans ce petit espace. Et si vous arrivez chez eux, ils croient que vous connaissez tout, comme eux. Sinon, ils se disent, mais comment serait-il venu sinon? Donc, il sait où trouver de l'eau. Il ne va pas se mettre dans des conditions comme ça. Donc, ils ne comprennent pas qu'on aille mal. C'est aussi simple que ça. Pour leur faire comprendre, il faut du temps. Et malheureusement, on n'a pas de temps. Quand on a soif, qu'on est en perdition, que les chameaux sont mourants, on n'a pas de temps.
Vous avez traversé donc plusieurs déserts, des régions différentes de tous les continents. Vous avez donc appris les dialectes. Comment vous apprenez les dialectes? C'est à force d'entendre les sonorités, vous répétez. Comment ça se passe?
Vous avez très bien dit les dialectes. C'est-à-dire qu'il y a tellement de dialectes qu'on peut pas parler tous les dialectes de tous les déserts parce que rien qu'au Sahara, par exemple, on a au moins quatre grandes langues. Alors c'est par exemple le Tamashek pour les Touaregs, c'est par exemple le Hassaniya pour les Maures en Mauritanie, ça peut être l'arabe, ça peut être également le Béja que parlent les nomades qui sont à l'est du Nil, donc près du Soudan. Ça peut être également le Toubou. Donc la langue des nomades du Tchad. Donc il y a tellement de langues qui sont en plus segmentées en plusieurs dialectes. Par exemple, certains Touaregs se comprennent pas entre eux. Donc c'est trop compliqué. Donc on est obligé d'avoir une sorte de langage véhiculaire qui vous aide un petit peu. Donc on fait un mix entre un petit peu d'arabe, un petit peu de Touareg. On essaye de se débrouiller, on parle beaucoup avec les mains. Alors bien sûr, si vous voulez traduire la Bible ou Victor Hugo en Touareg, vous aurez beaucoup de mal. Mais si vous voulez demander où est de l'eau, où est le puits, est-ce qu'il est profond, est-ce que tu as une poulie, une corde, ça, vous arrivez toujours à vous comprendre.
Et comment par exemple on dit... Où est le puits en Touareg?
Il y a plusieurs mots pour le puits. Donc, le puits, c'est par exemple Hassi ou Bir ou Anou. Donc, il y a un tas de mots différents pour désigner le puits, qui d'ailleurs, chaque fois, désigne quelque chose d'un peu différent. Ça peut être un trou d'eau, ça peut être un vrai puits, ça peut être un puits maçonné, ça peut être un puits de dune, un puits de roche. Enfin, oui. On arrive à se débrouiller de toute façon. Quand vous venez de la même façon qu'eux, à Chameau, vous avez les mêmes préoccupations qu'eux, donc du pâturage, de l'eau et des femelles aussi.
Alors, justement, abordons la question des cultures. Vous partez à la rencontre des cultures, vous avez engrangé d'immenses connaissances. Quelle est, par exemple, la chose qui vous a le plus surprise dans les mœurs quotidiennes?
Premièrement, les nomades sont beaucoup plus ouverts et beaucoup moins réfractaires qu'on le croirait. Premièrement, ils sont curieux de tout. C'est pas des gens qui vivent loin de tout, au milieu des dunes. Ils sont très, très curieux de chaque innovation qui leur parvient. Ce qui est positif pour eux, ils vont le garder. Ce qui est superflu, ils vont tout simplement pas le prendre. Pourquoi? Parce que la caractéristique des nomades, c'est qu'ils sont mobiles, ils bougent. Ils bougent avec leurs troupeaux. Et d'ailleurs, en fait, c'est pas vraiment les nomades qui sont mobiles, c'est plutôt les troupeaux des nomades qui sont mobiles, qui nécessitent de se déplacer pour trouver de la végétation. Donc, ils ont besoin absolument de ne pas s'encombrer de tout un impedimenta. Et contrairement à nous, qui vivons dans une société de consommation, on accumule un tas de trucs dont on n'a pas besoin. Eux, ils font le tri beaucoup plus rationnellement. Donc, ils savent très bien que tout ce qui est superflu est même handicapant. Et c'est même pire que ça. Ça touche à leur nomadisme, donc ils vont vivre moins bien avec plus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est déjà une grande découverte. Donc ils vont à l'essentiel, toujours, et de manière totalement claire. Une deuxième chose, c'est qu'ils sont beaucoup plus libres que nous. Bon, ça paraît logique, un nomade est libre, il peut aller à droite, à gauche.
Mais les femmes sont libres, non?
Et les femmes aussi sont libres. Donc les hommes sont libres, les femmes sont libres. Contrairement à l'image qu'on peut avoir. Même chez les Arabes. Par exemple, vous avez des tribus nomades arabes du côté de Tombouctou ou du côté de la Mauritanie, mais c'est des femmes qui sont capables de vous courser dans le désert pour que vous passiez la nuit sous la tente, hein, ça arrive. Donc, ça fait bizarre au début, mais c'est un paramètre. C'est quelque chose de très étonnant. On s'y attend pas. Bon, c'est pas tout le temps, hein, je vous assure.
Oui, parce que je pense qu'après, on pourrait se poser des questions, savoir pourquoi vous parcourez tout le temps les déserts. Parmi les sujets que vous exploitez dans votre livre et en parlant de culture, vous rappelez que l'écriture vient de ces peuples du désert, que les notions de paradis, d'enfer,
tout ce qui nous est familier aujourd'hui vient du désert ou est passé par les déserts. Je m'explique. L'astronomie, la médecine, l'écriture, les pratiques divinatoires, la notion du bien et du mal, tout ça, c'est des notions qui viennent de l'Est, de l'Orient. Alors, soit directement du désert, prenons un simple exemple. On se lève le matin, on va à la salle de bain, on ouvre le robinet, on tire la chasse d'eau. Ça, c'est des choses qui existaient déjà dans les villes de désert, des capitales perses, par exemple, ou mésopotamiennes, ou indiennes. On fait des recherches en permanence, et on en est de plus en plus sûr. Il n'y a pas que la Mésopotamie, mais il y a le bassin de l'Indus, il y a le désert du Rajasthan. Tout ça, c'était des zones qui étaient habitées. Par exemple, en 3000, 4000, 5000 avant Jésus-Christ, on avait déjà des maisons à deux étages, avec de l'adduction d'eau, évacuation des eaux usées. Ce qu'on n'imaginait même pas à l'époque en France. Même les Grecs et les Romains qui ont vu ça pour la première fois, Alexandre le Grand en 320 avant Jésus-Christ, il a découvert ça, il est tombé sur les fesses en voyant ça. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il était fasciné par cette culture orientale et qu'il a marié ses généraux avec des femmes orientales d'ailleurs. Tout ça, ça nous est venu de ces villes qui étaient bâties dans le désert. Souvent, c'est vrai, à proximité des fleuves, mais pas à côté des fleuves, parce qu'on maîtrisait pas la crue des fleuves. Donc, tout ce qui nous est commun aujourd'hui, comme les religions, par exemple, la religion chrétienne, a été énormément influencée par la religion zoroastrienne, qui est une religion de désert de Perse. Simplement, on a perdu un petit peu l'origine de ce qu'on a aujourd'hui. On croit qu'on l'a inventé, mais ça nous vient de populations de désert.
Et vous rappelez d'ailleurs à notre société occidentale, société de consommation, que les fiches de paye aussi ont pour origine.
Oui, c'était en Mésopotamie, Simbolum, c'était effectivement des fiches de paye, des dominos qu'on coupait en deux, chacun gardait une partie.
Je vous propose de marquer une première courte pause, Philippe Frey, et dans la seconde partie, nous allons partir à la aventure dans le désert du Kalahari. À tout de suite. Hey, De notre émission Éclairage en compagnie de Philippe Frey avec qui nous parcourons les déserts. Dans cette seconde partie, Philippe, nous partons au désert du Kalahari rencontrer le peuple Bushman. Comment êtes-vous venu à la rencontre de ce peuple en 92-93?
Alors d'abord, c'est un désert qu'on connaît très peu. Le Kalahari est pratiquement une des dernières zones inviolées d'Afrique avec le Sahara. Alors le plus grand désert du monde, c'est bien sûr le Sahara, qui est africain, puisqu'il occupe à peu près le quart de l'Afrique. Mais le deuxième plus grand désert d'Afrique, c'est le Kalahari. On peut dire que c'est vraiment d'ailleurs le petit frère du Sahara, parce qu'il est situé sur l'hémisphère austral, alors que le Sahara est situé sur l'hémisphère nord. Ils sont situés sous le tropique, l'un sous le tropique nord, l'un sous le tropique sud. Et c'est un désert qui est très particulier, parce qu'ils vivent donc une population qui est pygmée. Donc les Bushman sont pygmées.
Donc 1m50, 1m60.
Alors j'ose plus dire ça, parce que parfois il y a des gens qui ont 1m60, ils disent « Ah, alors on est pygmées aussi
ah. !»
Donc, même ils sont petits. Bon. Et ils vivent dans une sorte de désert, en fait, une sorte de semi-désert. Alors, certains vont dire « Mais c'est pas un vrai désert, parce qu'il y a de l'herbe, il y a des arbres parfois. »
Il n'y a pas d'eau,
c'est ça ? Mais il n'y a pas d'eau, voilà. Donc, il n'y a aucune rivière courante sur tout le territoire du Kalahari. C'est tout simplement d'ailleurs la plus grande cuvette de sable d'un seul tenant du monde, qui est grande comme deux fois la France. Une couche de sable qui peut être profonde de 300-400 mètres d'épaisseur. Hein. Donc, c'est le plus grand ensemble de sable du monde. Et ils vivent, en fait, ces gens-là, uniquement de cueillette et de chasse, donc dans un désert. Donc tout ça se passe sans eau. Donc c'est très étonnant de découvrir un peuple comme ça, parce que quand on a découvert avant ça le Sahara, par exemple, un désert où on circule avec des chameaux, où on a des outres en peau de bouc pour transporter l'eau, on vit pas du tout de la même façon. Et donc au Kalahari, alors là, c'est un autre désert, avec une autre façon de vivre un désert. Et d'ailleurs, on peut faire cette constatation pour tous les déserts du monde. Chaque fois qu'on découvre un autre désert, on y vit d'une autre façon, ainsi de suite. Par exemple, les déserts américains, les déserts d'Australie, les déserts de Chine, chaque fois, c'est une autre façon de vivre dans ces déserts.
Alors là, vous suivez pendant 7 mois Simon, c'est ça, qui est donc Bushman.
Alors j'étais dans plusieurs campements en fait. J'étais donc d'abord, il faut les trouver, ces campements Bushman, parce qu'ils sont vraiment cachés, dissimulés dans le désert. Donc il faut vraiment faire une véritable enquête presque de police pour essayer de voir où ils sont.
Et vous faire accepter aussi.
Et se faire accepter. Alors il en reste peu en plus. Donc il y a environ une centaine de milliers de Bushman, donc sur plusieurs pays. La Namibie, le Botswana surtout, hein, un petit peu la Zambie, un petit peu l'Angola. Et ce sont des gens qui vivent vraiment par tout petits groupes, perdus vraiment dans leur désert, avec des huttes qu'on ne repère même pas, parce que tout est fait à base de produits de désert, donc des herbes du désert qu'on empile, ça fait des huttes, un arc et des flèches fabriqués avec les moyens du bord. Enfin vraiment, ils ont une technologie très rudimentaire, mais ils connaissent par contre parfaitement leur environnement. Du plus petit insecte jusqu'au plus grand des mammifères du Kalahari, qui est l'élan du Cap, donc qui pèse jusqu'à 600 kilos. Donc ils connaissent vraiment parfaitement tout l'écosystème. Ils ont vraiment mille et une choses à nous apprendre sur la façon de comprendre l'environnement.
Là, vous partez à la chasse, c'est ça, avec Simon. Et il y a une anecdote que vous relatez. Alors je ne sais pas si ça relève du mythe ou pas. Vous allez pouvoir me le dire. Scooper, un bushman du Kalahari central, près de Xad, m'avait raconté une bien curieuse histoire.
Xadé. Ça s'écrit Xad, mais ça c'est Xadé.
Xadé, d'accord. Il rentrait chez lui bredouille avec une longue journée de traque en vain. Tout à coup, il se rend compte qu'il est suivi par un gros lion mâle qui rampe et s'apprête à bondir sur lui. Que fait notre ami ? Il se retourne d'un bloc et entame une discussion fortuite avec l'animal en un curieux parler ponctué de claquements de langue, donc typique des Bushman. Très étonné, le lion, qui n'a jamais vu une telle attitude chez une proie, écoute et attend. Car habituellement, bien sûr, un gibier fuit, terrorisé, bondissant en tous sens, ou au contraire, reste figé, tétanisé. Une antilope, en principe, ne parle pas. Au bout d'un certain temps, le lion s'assoit même sur son arrière-train, de plus en plus curieux, et Scooper de poursuivre. « Ah bonjour, ça va? Tu chasses? Moi aussi je chasse. Mais je n'ai rien trouvé aujourd'hui, c'est embêtant d'ailleurs, car je vais me faire engueuler par ma femme. Et elle m'attend avec mes 4 enfants, elle ne va vraiment pas être contente. » Puis toujours sans s'arrêter, il enclenche finement sur le sujet qui lui tient à cœur. « Tu sais, nous les hommes, nous ne sommes pas bons à manger, hein. Ça se saurait d'ailleurs. Donc ne perds pas trop de temps ni ton énergie. Les élans du cap et les springboks sont bien meilleurs. » Au bout de 3 quarts d'heure de ce monologue, le lion n'a toujours pas bougé. Reste à trouver une issue. Alors le bushman conclut contre toute attente. « Bon, ben c'est pas tout ça, mais si je ne rentre pas, je vais définitivement me faire engueuler par ma femme. Donc j'y vais. » Sur ce, il se retourne et rentre chez lui, et le lion, sidéré et penaud, s'en va.
Mais c'est vrai, parce que ce qui compte, c'est de déstabiliser toujours l'animal. Alors ça, c'est avec les lions. Mais pour chaque animal, effectivement, on a une technique pour le déstabiliser, pour lui faire comprendre qu'on n'est pas une proie. Parce que effectivement, les hommes chassent exactement de la même façon les antilopes. Hein. Ils marchent et ils trouvent le passage d'un gibier. Ils vont suivre ce gibier, le traquer, le chasser avec des flèches, mais le lion va bondir. Donc, le lion chasse de la même façon que l'homme. Simplement, l'homme n'est pas un gibier, théoriquement, pour un lion. Donc, il faut bien lui expliquer. D'ailleurs, de toute façon, les bushmen sont animistes. Donc, ils savent que chaque être vivant, chaque plante, chaque animal a une âme et il est capable de comprendre ce qu'on lui dit. Donc, il parle d'ailleurs parfois aux rochers, parfois aux animaux. Quand un bushman a tué une antilope ou est en train de tuer une antilope, il lui explique. Hein, il lui dit, bon, je te tue, mais je suis vraiment désolé. Mais j'ai
c'est
mes enfants à nourrir,
famille.
Voilà, exactement. Et avec les lions, ça marche d'autant plus qu'effectivement, une antilope ne parle pas.
Alors, vous allez me dire que ma culture cinématographique n'est pas forcément très intéressante, mais ça me rappelle Les dieux sont tombés sur la tête.
Oui, c'est vrai, c'est des bushmen, donc ça, on ne peut pas l'inventer, ils fonctionnent comme ça. Maintenant, pour d'autres animaux, c'est complètement différent. Par exemple, avec le léopard, comment fait-on quand vous êtes attaqué par un léopard au désert du Kalahari? Vous lui
en
parlez
cours.
Pas. Voilà. Vous lui parlez pas. Vous courez le plus vite
vous
possible.
Vous accrochez à un acacia.
Non, parce qu'il monte aux arbres. Non, en fait, le léopard du Kalahari est un léopard particulièrement agressif qui attaquera toujours. Donc, dès qu'il voit un humain, là, par contre, il attaque. C'est pas la peine de lui parler. Et donc, vous courez le plus vite possible en ligne droite, sans faire de zigzag, parce que le léopard se remet beaucoup plus vite sur son pied d'appel. Et donc, c'est pas la peine d'essayer de zigzaguer. Par contre, tous les 10 pas, vous comptez 10 pas. Un pas de bushman, une foulée de bushman, hein. Un petit pas. Et donc, le bushman court 10 pas, il tourne la tête sans s'arrêter, bien sûr, et il regarde où en est le léopard. Et au moment où le léopard arme son seau, ou est en l'air, est presque en train d'atterrir sur la nuque du bushman, le bushman s'arrête, se couche par terre en boule, et le léopard rate son coup, bien sûr. Donc, il passe par-dessus, il passe. Éventuellement, il donne un coup de patte en passant, patte évidemment avec des griffes. Hein. Donc, il va lacérer le dos du bushman ou le cou. J'ai connu un bushman qui avait perdu un œil comme ça. Mais en tout cas, le bushman ne prend pas la charge sur la nuque. Et donc, il survit. Et le léopard n'attaque toujours qu'une fois. Donc après, les blessures superficielles de peau, on les soigne. Mais au moins, il n'y a pas la mâchoire qui arrive directement sur la nuque. Donc, c'est une façon de survivre. J'ai connu déjà 3 bushmen qui avaient survécu de cette façon-là. J'ai connu un bushman, il avait une marque de léopard sur le dos. On voyait vraiment l'empreinte en négatif sur le dos. Donc, il explique, bah oui, il s'est fait charger, il s'est couché dessus. Il s'est couché au dernier moment.
Les conditions de vie au Kalahari sont difficiles. Vous nous le disiez, il n'y a pas d'eau. Alors, comment on fait? On prend des œufs.
Il y a d'autres difficultés, il y a des difficultés politiques quand même qu'il ne faut pas nier également, en particulier avec le gouvernement botswanais actuellement qui fait pratiquement la chasse aux bushmen pour exploiter le sous-sol qui est très très riche en diamants. Donc non seulement le milieu est dur pour eux, mais le milieu politique, humain est encore plus dur. C'est pour ça qu'ils se cachent en fait dans le désert actuellement. Alors qui veut dire également se cacher dans le désert implique de trouver de l'eau dans des endroits où il n'y en a pas. Alors comment trouve-t-on de l'eau dans des endroits où il n'y en a pas? Ben on trouve toujours effectivement de l'eau, mais de manière bizarre. Par exemple, dans l'estomac des antilopes qu'on vient de chasser, on peut trouver de l'eau, puisque l'animal a brouté de l'herbe, a récupéré l'eau de l'herbe, et donc on trouve à peu près 2, 3, 4 litres d'eau dans un estomac d'antilope.
Ok, fermenté un peu?
C'est un peu fermenté, c'est un petit peu comme de la choucroute. Donc on presse cette herbe, et ça donne un liquide qui n'est pas si mauvais, qui ne sent pas le vomi, parce qu'ils n'ont pas de suc gastrique dans l'estomac. Donc c'est une façon de trouver de l'eau. Certains bushmen également peuvent stocker de l'eau dans des œufs d'autruche vides.
Et c'est ce que vous expliquez d'ailleurs dans votre livre,
hein. Oui,
vous êtes toujours à la recherche d'œufs d'autruche.
Et d'ailleurs le problème, c'est que quand les Blancs ont essayé de coloniser l'Afrique australe, rural, donc de désert, et ils arrivaient avec des moyens complètement inadaptés, avec des chariots tirés par des bœufs, etc. Il n'y avait plus d'eau souvent. Et quand ils tombaient sur un campement bushman, à la menace des armes, ils faisaient déterrer les œufs d'autruche que les bushman avaient cachés. Évidemment, ce qui condamnait le campement, mais ce qui sauvait la vie des blancs, des colons blancs. Mais en fait, la plupart des colons blancs n'ont jamais pu pénétrer dans le Kalahari. C'est-à-dire que du fait justement du manque d'eau et des moyens inadaptés, ils n'ont jamais pu survivre à ce désert. Alors que les bushman qui y sont depuis 50 000 ans.
Au bout de 7 mois, comment vous vous quittez en fait après 7 mois de cohabitation avec les bushman?
Bah, c'est assez bizarre, c'est vrai, parce que il faut faire un grand pas vers eux. Eux font un petit pas vers vous. On essaye de se comprendre. Et puis, de toute façon, chacun retourne à sa société. C'est-à-dire que les bushman retournent. Simon, avec qui j'ai traversé le désert du Kalahari, qui est quand même long de plus de 1000 kilomètres, en survie complète, sans chameau, sans eau, sans nourriture, c'est pas évident. Hein. Lui, il est retourné effectivement à son campement. Il continue à chasser encore aujourd'hui. Au moment où on parle, il chasse des antilopes dans son désert. Et moi, je suis ici à vous parler.
Un autre désert que vous avez parcouru, et vous expliquez que vous êtes le premier à l'avoir parcouru seul, c'est en Iran.
Mais en fait, la plupart des déserts du monde n'ont jamais été parcourus, traversés intégralement.
Théodore Monod a parcouru le Sahara, et le désert du Ténézrouft.
Théodore Monod a fait des jonctions d'un poste militaire à un autre poste militaire. Par exemple, sa plus longue distance, c'était entre Ouadan et Arawan, donc entre la Mauritanie et le Mali, ce qui fait 950 kilomètres. Alors, c'était des jonctions dans des zones inconnues, mais c'était pas traverser le désert de part en part. Le Sahara, je l'ai traversé effectivement de la mer Rouge à l'Atlantique, ce qui fait 9000 kilomètres. Ce qu'un nomade ne fait pas, ce qu'un occidental ne fait pas, à plus forte raison seul. Et ainsi de suite pour tous les autres déserts du monde. Le désert du Kalahari n'a jamais été traversé, ni par un bushman.
Alors pourquoi vous le faisiez? Pour être le premier, justement?
Non, c'est pour... vous ne pouvez pas le traverser par hasard. Si vous traversez un désert de ce type, que ce soit le Sahara, le Kalahari, les déserts d'Asie, les déserts d'Iran, c'est parce que vous avez bien essayé de comprendre déjà comment fonctionne le désert. Et vous avez surtout essayé de comprendre comment les locaux qui vivent à proximité ou en marge du désert ou un petit peu dans le désert font pour vivre là-dedans. Donc il faut déjà être un ethnologue, vivre avec eux, apprendre à s'occuper d'un chameau. Ça, on peut pas l'apprendre dans un livre. À part le mien, peut-être. Comment s'occuper d'un chameau pour traverser un désert? Et puis, seul, bien sûr, sans le local qui vous le fait.
Quoi. Et pourquoi seul? Parce que même les nomades ne partent jamais seuls.
Ben, les nomades ne partent pas non plus dans ces zones qu'ils ne connaissent pas. Un nomade, il connaît à peu près son territoire. Il connaît son territoire qui est grand à peu près comme deux départements français. À peu près. Ailleurs, il ne connaît pas. C'est pas son territoire. C'est pas sa zone. Il ira pas. Donc, il n'ira pas non plus dans une zone qu'il connaît pas.
Donc, vous voulez dire que vous pouvez pas être accompagné ou au-delà de certains territoires?
Un nomade connaît son territoire. En dehors, il ne connaît pas. Donc, après, il ne vous sert plus à rien. Donc, si déjà on est dans l'inconnu, c'est pas la peine de prendre un guide de l'inconnu, il connaît pas. Donc, on est obligé de plonger comme un plongeur plonge. Et, on traverse effectivement souvent avec des risques, c'est clair. Mais au moins, on découvre.
Théodore Monod, vous en parlez dans votre livre au détour d'une ou deux phrases. Comment vous l'avez connu?
Théodore Monod, j'avais rencontré avant de traverser le moindre désert. En tant que doctorant en ethnologie, je faisais une thèse sur les nomades du Sahara, qui fait 500 pages, qui a d'ailleurs eu la mention très honorable, félicitations du jury après coup. Et il m'a reçu très aimablement. Et pendant plusieurs heures, on a discuté dans son laboratoire rue Cuvier.
Ce qui est rare, parce que je crois que c'est quand même quelqu'un qui parle très peu, Théodore Monod. Ou alors qui parle très bien de ce qu'il connaît.
Mais on était entre scientifiques. Quoi.
Oui.
Et puis, j'avais parlé de mon intention de traverser le Sahara d'est en ouest. Bon, il comprenait pas bien, mais il a dit, bon, faites-le. Et puis, je l'ai fait. Et après, il y a eu un blocage complet. C'est-à-dire qu'il a jamais plus voulu me rencontrer. Dans son esprit, en fait, il n'a jamais intégré.
Ce que vous me disiez en préparant cette émission, c'est que vous vous intéressez plus à la vie des peuples, hein, en tant qu'ethnologue, ce qui n'était pas forcément aussi le travail du naturaliste Théodore Monod.
Théodore Monod était un explorateur du temps colonial. C'est-à-dire qu'il explorait les plantes, les bifaces, donc les sites néolithiques, la géologie du lieu, qui était un lieu français. C'est-à-dire que c'était un territoire français à cette époque. Donc il fallait bien qu'on connaisse en fait cette France de si loin. Et il a fait tout à fait ce travail-là. Il était directeur de l'Institut français d'Afrique noire qui coordonnait toute l'anthropologie du continent africain. Donc effectivement, il jouait ce rôle, oui. Oui, oui. Mais par contre, c'est vrai qu'il avait un blocage souvent avec l'homme. En tout cas, avec, il utilisait, c'est un peu son paradoxe, il utilisait les nomades pour se rendre dans ces zones, mais il n'avait pas un énorme intérêt pour eux.
Je vous propose de marquer une seconde courte pause, Philippe Frey. Dans la troisième partie, nous allons parler de la prison, puisque vous avez fait quelques séjours en prison, et puis des problèmes que vous avez eus en Iran, en tout cas à la jonction entre l'Iran, le Pakistan et l'Afghanistan. À tout de suite.
Jean-Luc Pinceau, le créateur de la troupe du Petit Miroir, spécialisée dans le théâtre des marionnettes chinoises, est lauréat depuis le 11 juin 2007 du prix de la Fondation franco-culturelle taïwanaise. Vous êtes amateur de théâtre, venez découvrir ce théâtre très populaire à l'origine de l'opéra chinois. Depuis le XVIe siècle, à Taïwan, les marionnettes honorent les divinités. Ce théâtre cultuel est aujourd'hui un élément fort de la culture taïwanaise. Alors installez-vous confortablement, venez écouter l'émission Point de mire et levons ensemble le rideau sur un genre théâtral qui invite au voyage. Retrouvez l'émission Point de mire, la culture taïwanaise dans le miroir des marionnettes.
Suite de notre émission Éclairage, toujours en compagnie de Philippe Frey, spécialiste des déserts, explorateur, aventurier, écrivain. Pour préparer cette émission, je me suis basée donc sur 50 degrés désert brûlant qui est paru en mai 2007 aux éditions Lattès. Dans cette troisième partie avec vous, Philippe Frey, nous allons pouvoir parler des petits problèmes que vous avez eus, des nombreux problèmes que vous avez eus, mais notamment en Iran, dans le désert du Lout, à la frontière entre le Pakistan, l'Afghanistan et l'Iran, où vous rencontrez des trafiquants et là, vous risquez votre peau.
Effectivement, mais quand on dit déjà est de l'Iran, sud de l'Afghanistan, ouest du Pakistan, on se doute déjà que ça ne sera pas une mince affaire que d'aller dans ces zones. Alors effectivement, si vous allez dans le désert, dans ces déserts-là, donc le désert du Lout, le désert d'Afghanistan ou le désert du Pakistan, c'est déjà difficile du fait du désert. Mais dès que vous commencez à sortir du désert ou que vous êtes entre deux déserts, alors là, c'est encore pire parce qu'il faut bien comprendre que dans cette zone, ce n'est pas un problème de talibans en fait, parce que les talibans étaient au pouvoir en Afghanistan à cette époque, ils étaient plutôt tranquilles, ils réglaient en fait, il y avait une sorte de calme sous les talibans. Mais c'est surtout le problème des trafiquants d'héroïne, parce que 80% de l'héroïne mondiale est produite dans ces zones, en particulier dans le sud-ouest de l'Afghanistan, dans une zone qu'on appelle le Helmand. Alors très bizarrement, c'était le lieu où par le passé étaient situées les anciennes capitales de Perse, avant qu'elle soit dévastée par Gengis Khan, donc vers 1150 à peu près. Alors, par cliché satellite, on voit encore les sites à peine qui émergent des sables, parce qu'il y avait un fleuve, justement ce fleuve, le Helmand, qui irriguait ces zones. Et on considère qu'il y avait à peu près 2 millions d'habitants qui vivaient aux abords de ces capitales, ce qui est énorme pour la zone. Mais actuellement, donc du fait de ce fleuve qui est recanalisé, on produit maintenant de l'héroïne. Et systématiquement, les convois empruntent les pistes de désert ou en marge de ces déserts. Ils rentrent pas dans les déserts, en fait. Ils sont en marge des déserts. Et quand on fait des rencontres avec ces gens-là, ça peut que mal se passer. Parce qu'ils sont surarmés, donc c'est des gens qui sont souvent... le trafic de fourmis se fait plutôt avec des motos soviétiques. Et les gens sont armés de Kalachnikov, de Uzi, de lance-roquettes.
Hein.
Ils étaient occupés longtemps par les soviétiques, donc ils ont encore tout ce matériel, tout cet armement qui est là. Ils sont vraiment surarmés, ils ont peur automatiquement qu'on enquête sur eux. Alors qu'en fait, on ne veut que étudier le désert. Mais pour eux, c'est la même chose. On étudie le désert, donc c'est étudier leurs pistes d'approvisionnement, etc. Et là, c'est très, très dangereux.
Alors, vous tombez par hasard sur eux. Vous voyez, je crois, un mégot de cigarette encore fumant, alors que vous vous pensez vraiment seul au monde dans ce désert.
Mais c'était une journée épouvantable, parce que le même jour, je suis tombé sur 4 convois d'héroïne. Je me suis fait tirer dessus à l'Uzi. Les balles ricochées autour de moi. J'ai pris mes chameaux, j'ai couru dans un canyon pour me cacher. 2 heures après, j'étais attaqué par un autre convoi, enfin, qui m'a dévalisé. Et puis, pour finir, j'étais particulièrement idiot ce jour-là, parce que j'ai baragouiné un peu en farsi, donc en iranien. Bon, le gouvernement iranien n'a rien à voir là-dedans. C'est une zone qui est hors de contrôle.
C'est une zone de non-lieu.
Voilà. On est à 20 km de l'Afghanistan, on est à 30 km du Pakistan, on est en Iran, d'accord, mais bon, ça n'a pas d'importance. Ça appartient au fait aux Baloutches. Les Baloutches sont chez eux. Et puis c'est tout. Et donc, la troisième fois, donc, ils m'attaquent, ils me dévalisent et j'ai discuté bêtement avec eux pour pas avoir l'air d'avoir peur. Et j'ai dit, comment tu t'appelles? Il me dit, Brahim. T'habites où? Il me dit, donne le nom de son village, et puis il continue à me voler, à piquer tout ce qu'il veut. Et puis après, il me remercie même. Il dit merci,
c'est
merci.
Bien, il est poli, c'est un voleur.
Et puis ils partent. Et environ quelques minutes après, je vois les phares des motos qui partent, et il commençait à pleuvoir. On était entre deux déserts, entre le désert d'Iran et le désert d'Afghanistan.
Oui, parce qu'il pleut quand même assez rarement dans le désert. Vous n'avez vraiment pas de chance.
Mais on est à 2500 mètres d'altitude. Il y a une sorte de brouillard. Et donc, tout d'un coup, je vois les phares des motos qui reviennent. Et en fait, ils sont revenus pour me tuer. Parce que je savais son nom, je savais où il habitait, et pour eux c'était dévastateur. Quiconque est pris avec plus de 5 grammes d'héroïne en Iran est pendu. Donc pour eux, il fallait absolument faire disparaître ce témoin gênant, et donc j'ai tout de suite compris, j'ai précipité mes chameaux dans un ravin en fait. Je les ai bousculés dans un ravin, ils se sont écroulés en bas en sang, ils ne se sont pas cassés de pattes heureusement, mais on a tout dissimulé, j'ai caché toutes les affaires. Ils ont tourné pendant plusieurs heures pour me chercher, ils ne m'ont pas trouvé.
Parce que c'était la nuit tombante également.
Voilà, il faisait nuit, la pluie, et puis ça a effacé toutes les empreintes de passage, heureusement, parce qu'ils sont redoutables pisteurs aussi. Au milieu des rochers, quelqu'un qui est passé avec deux chameaux, il le repère tout de suite.
Donc finalement, les éléments ont joué à votre faveur.
Oui,
j'ai
eu énormément de chance. Hein. Les gens passaient parfois à 5 mètres de moi, sous la pluie battante.
Parce qu'ils vous ont cherché pendant longtemps, d'après ce que j'ai cru
quelqu'un
comprendre.
Quelqu'un ne perd pas 3 heures à vous chercher sous la pluie battante, à 2500 mètres d'altitude, en plein col, si c'est pas pour rien.
Donc finalement, vous avez réussi à les semer et à repartir. Comment ça se passe?
Voilà. Le lendemain, j'étais en Afghanistan. C'est-à-dire que, effectivement, j'ai traversé toutes ces frontières clandestinement. Je me suis retrouvé par un vent de sable. Le lendemain, j'avais un vent de sable terrible. On ne voyait pas à un mètre. C'est incroyable, cette diversité de climat, d'environnement. D'ailleurs, MacMahon, le colonel MacMahon, dont une avenue à Paris porte le nom, c'est lui qui avait tracé cette frontière, pas dans cette zone, mais à proximité. Il avait perdu, je crois, 60 chameaux dans un vent de sable dans cette zone. En fait, c'est pas un vent de sable, c'est un vent de salpêtre. Il y a une cuvette de salpêtre, et quand il y a du vent, le salpêtre rentre dans les naseaux des chameaux. Effectivement, il meurt étouffé. Alors qu'on ne meurt normalement pas dans une tempête de sable.
Il me semble que dans ce chapitre, vous parlez également du sol. Vous vous enfoncez profondément dans le sol. Ce sont des fleuves de sel.
Oui, ça, c'est une spécificité iranienne, en fait. Mais on retrouve exactement le même type de terrain dans la vallée de la mort, par exemple, en Californie, dans les déserts américains. Effectivement, ce sont des zones de lacs à sec. Pas tout à fait encore à sec. Donc la croûte de sel peut casser, une croûte de sel qui fait peut-être 10 cm d'épaisseur, et puis dessous vous avez un magma de terre un peu salé, qui peut effectivement faire office de sable mouvant, mais c'est pas sec. Vous voyez, ce qu'on voit dans Laurence d'Arabie avec le gamin qui a aspiré dans des sables mouvants de dunes, ça n'existe pas. Il n'y a aucun endroit, dans aucun désert du monde, où c'est possible, ça. Le désert sec, le sable sec, ne peut pas vous ensevelir. Par contre, un lac pas tout à fait résorbé peut, effectivement, vous ensevelir. C'est d'ailleurs de là que vient l'idée du diable, qui est dans le sol, parce que Zoroastre, Zarathoustra, était gardien de chameaux dans le désert d'Iran. Il avait perdu des chameaux, déjà de cette façon-là. Très probablement aspiré par le bas, comme si quelqu'un les tirait par les pattes vers le fond. Et effectivement, il a dit, mais c'est le diable, c'est le démon. Et nous avons repris la tradition juive, puis chrétienne, puis même musulmane, a repris ça, des nomades perses. L'enfer est en bas. Et le paradis, c'est en haut, c'est dans le ciel. Et les anges dans le paradis, mais c'est les étoiles filantes qui laissent leur traîne. On met ça sur les sapins de Noël en ce moment, c'est pas pour rien. C'est parce qu'ils laissent leur traîne. C'est les étoiles filantes qui fusent à travers le ciel, qui est le ciel le plus pur qu'on puisse imaginer. On voit une étoile filante en moyenne toutes les 10 secondes dans le ciel du désert. C'est pas par hasard.
Votre dernier chapitre, Philippe Frey, s'intitule tout simplement « Prison
».
En toute simplicité. Vous avez donc fait plusieurs séjours en prison. À chaque fois, on vous prenait pour un espion. Vous parlez du Tchad, vous parlez également de l'Inde, où vous étiez condamné à 12 ans.
C'est-à-dire que si vous allez sur mer, la mer appartient à tout le monde. un marin peut prendre son bateau, c'est des eaux internationales, ça porte son nom, c'est international. Si vous allez sur la glace, pôle nord, pôle sud, ça appartient à tout le monde. Il y a des accords entre États, bon, il y a des petits territoires nationaux, mais disons, on peut traverser l'Arctique, l'Antarctique, ça appartient à tout le monde. Même à la limite, la montagne, si vous êtes du côté du versant chinois, vous êtes en Chine, bon, c'est pas grave. Par contre, si vous êtes dans les déserts, souvent, on a mis les frontières entre les pays. Et là, automatiquement, vous allez d'un pays à l'autre. Et souvent, on met d'ailleurs les frontières de désert entre des pays qui ne s'aiment pas. Par exemple, entre l'Inde et le Pakistan, entre l'Afghanistan, peut-être, et l'Iran, entre, vous voyez, des zones comme ça, entre les États-Unis et le Mexique. Donc, les déserts sont toujours dans ces zones-là. Et donc, c'est des zones non seulement de non-droit qu'on connaît mal. Mais les gouvernements centraux pensent que voilà, il y a des mauvaises gens, des trafiquants, des asociaux, des rebelles dans les déserts. Et du coup, si vous allez dans ces zones, on comprend pas pourquoi. Personne ne comprend pourquoi. Les gouvernements centraux comprennent pas pourquoi vous y allez. En plus, vous allez chez le voisin Oni, et puis les rebelles, les trafiquants comprennent pas pourquoi. Donc vous avez tout le monde sur le dos. En fait.
Et alors, Rajasthan, par exemple, vous aviez votre boussole, votre GPS, enfin, pour eux, des éléments qui concordaient dans l'idée que vous étiez un espion.
Vous êtes dans le désert depuis plus de 6 mois, côté indien. Ils savent absolument pas ce que vous avez fait là-bas. Effectivement, j'étais avec mes chameaux, j'ai traversé tout le désert du Thar et le désert du Sindh, qui sont côté indien. Et puis, malheureusement, le désert continue. Mais alors, vous arrivez au Pakistan. Donc, j'étais capturé, en fait, par les autorités indiennes, à l'intérieur du Pakistan, donc une trentaine de kilomètres à l'intérieur du Pakistan. Ils m'ont évidemment accusé d'espionnage. Ils m'ont ramené en Inde et j'étais condamné à 12 ans à peu près. Donc, pour entrer en territoire protégé, espionnage, et donc condamné, mis en prison. J'ai fait à peu près 2 à 3 mois de prison, côté indien.
Parce que donc le consulat n'était pas prévenu, vous aviez aucun moyen de joindre votre famille?
J'étais au secret total. Pour eux, c'était une affaire ultra sensible, parce que effectivement, tout ce qui touche au Pakistan, en Inde, et réciproquement, est vraiment très important. C'est vraiment la pire chose que puissiez faire. Donc, c'est à propos de ce problème indo-pakistanais qui a lieu souvent dans le désert. Alors, au nord du désert, c'est le Cachemire, c'est au niveau des montagnes, mais au niveau du désert, c'est là qu'est la frontière. Et je signale d'ailleurs que les silos à missiles nucléaires, parce que les deux pays ont l'arme nucléaire, sont dans le désert. Donc, effectivement, pour eux, c'est très, très, très sensible.
Vous entamez une grève de la faim?
Oui, j'ai fait une grève de la faim de 17 jours pour qu'ils informent les autorités françaises. Ils n'ont jamais informé les autorités françaises.
Et en fait, parce que justement, je crois que vous vouliez faire une grève de la faim
pour informer les autorités.
Et du coup, ils vous ont mis dans un cachot vraiment tout seul pour que...
Oh, c'était pire que ça. C'est-à-dire qu'ils m'ont transféré de la prison de Jaisalmer en Inde à la prison de Jaipur, au quartier de haute sécurité. Alors là, c'est carrément une cage au milieu de la prison, balayée constamment par des projecteurs. Donc vous êtes dans une cage, comme un animal. Et il y avait d'ailleurs à côté de moi une autre cage avec un des participants à la prise du temple d'or d'Amritsar du temps d'Indira Gandhi, hein. Ça remonte. Et il était là depuis, je crois, 22 ans.
Dans la cage?
Dans une cage. Il était devenu fou. Il m'avait en fait transféré pour me nourrir de force, pour me poser une perfusion et une sonde gastrique. Ils n'ont trouvé aucun médecin qui acceptent de le faire. Donc, ils m'ont rapatrié de nouveau. Enfin, c'était infernal. Et après, ils m'ont dit, effectivement, bon, on a reçu la réponse de Delhi. Finalement, il vaut mieux que tu meurs.
Donc, en fait, c'est pour ça qu'ils vous ont mis de côté pour pas que les autres prisonniers voient ça. Et entre-temps, vous avez réussi à joindre votre famille.
Oui, de manière complètement inespérée, parce que c'était... Vous savez, vous êtes en prison en Inde. Vous êtes au niveau d'un paria, donc d'un intouchable. Et donc, les seuls qui vous parlent encore, ça devient effectivement les intouchables. Et il y avait 2 intouchables dans cette prison. Et un des deux a été libéré et a accepté de télégraphier en Inde, en France, pardon, où effectivement, on a su où j'étais. Parce que le gros problème, c'est qu'on ne sait pas où vous êtes. Moi, je quitte l'Inde, j'arrive au Pakistan. Est-ce que je suis en Inde? Est-ce que je suis au Pakistan? Est-ce que je suis mort dans le désert? On ne sait pas. Ça a été le cas plusieurs fois. J'étais porté disparu déjà 3 ou 4 fois. C'était le cas entre le Soudan et le Tchad, enfin dans d'autres endroits également.
Vous étiez incarcéré?
Aussi, oui. On ne sait jamais où vous êtes. Et tant qu'on ne sait pas où vous êtes, personne ne peut rien faire.
Et finalement, donc vous êtes sorti au bout de 3 mois.
Oui.
Parce que donc, les autorités françaises ont été informées.
Il y avait un consul formidable. qui était très actif, ce qui n'est pas forcément toujours le cas.
Ça sent le vécu pour les autres pays.
Oui. Mais en tout cas, lui était vraiment très, 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 très efficace. Parce que d'autres personnes peuvent effectivement rester très, très, très longtemps dans ces conditions. Il faut savoir que quand vous êtes capturé, que vous êtes condamné dans un pays, vous respectez la loi du pays. On le voit bien au Tchad actuellement. Une tentative d'enlèvement d'enfant, vous êtes passible de la justice du pays. Et c'est d'ailleurs normal.
Aujourd'hui, que vous reste-t-il à découvrir ? Là, vous repartez en Éthiopie. Et qu'est-ce qui vous manque encore à votre... J'allais dire à votre palmarès, c'est pas très beau, mais...
Mais vous savez, c'est pas parce que vous avez traversé un désert que vous le connaissez parfaitement. Vous l'avez vécu très intensément, vous avez vécu une traversée de désert, vous le connaissez. Mais vous ne connaissez pas tout. Donc il y a toujours des choses qui peuvent que vous pouvez découvrir. Par exemple, dans le désert Afar, où je vais là, mercredi prochain... La dernière fois, je n'avais pas pu aller dans le Dalol. Le Dalol, c'est une dépression qui est 140 mètres sous le niveau de la mer. En fait, c'était inondé. C'est-à-dire qu'il y avait trop d'eau, on ne pouvait pas accéder. Donc cette fois-ci, on va accéder au Dalol. Donc on va essayer d'explorer vraiment consciencieusement cette zone du Dalol. C'est une zone volcanique, donc sous le niveau de la mer, qui est inondée d'eau. Donc vous avez des geysers de sel, des choses assez étonnantes. D'ailleurs, on va traverser le désert Afar de part en part de la frontière somalienne jusqu'à la frontière érythréenne. Donc c'est encore une fois quelque chose de tout nouveau.
Vous dites « on », cette fois-ci vous partez en équipe ?
Là, je pars en équipe, oui. En Chine, on va essayer également d'aller dans le désert chinois, l'Alashan, donc on l'appelle l'Alashan. En fait, le désert d'Asie n'est pas en Mongolie, contrairement à ce qu'on pense. Le désert de Gobi n'est pas en Mongolie, il est plutôt en Chine. Donc c'est ce qu'on appelle l'Alashan. Vous avez d'ailleurs les plus hautes dunes du monde qui montent jusqu'à plus de 400 mètres de haut, avec des lacs d'ailleurs au sommet de ces dunes. Donc, on ne comprend pas géologiquement comment c'est possible. En fait, c'est par capillarité, l'eau monte, contrairement à ce qu'on pense. Encore une fois, c'est plein de surprises. Et en plus, on aura une éclipse totale de soleil qu'on ne verra que de cette zone. Donc du désert
en 2008. Gobi,
chinois, le 1er août 2008.
Bon, alors avis aux amateurs qui voudraient voir une éclipse.
Contactez-moi.
Eh bien merci Philippe Frey de nous avoir rendu visite. Je rappelle le titre de votre ouvrage qui a donc reçu le prix du Lon-Saint-Denis 2007, prix de l'Institut de France. Donc votre livre qui s'intitule 50 degrés, désert brûlant, publié aux éditions La Thèse en 2007. On vous souhaite bon vent.
Pas trop de vent quand même.
Pas trop de vent.
Ça dépend de ça.
Les tempêtes de sable, voilà. C'est pas l'idéal. Merci beaucoup et j'espère à une prochaine fois.
Merci.